bienvenue à Je vais au ciné, comme tous les lundis à 14h. Avec moi aujourd'hui, j'ai Mickaël.
Oui, bonjour.
Bonjour Mickaël. Qu'est-ce que tu fais avec nous aujourd'hui?
La même chose que d'habitude, je vous supporte.
Et on a Antoine.
Bonjour.
Bonjour Antoine. C'est toi qui vas nous faire la chronique aujourd'hui?
C'est cela même.
Et comme d'habitude, j'ai une petite surprise, un petit peu plus longue que d'habitude, alors vous allez en profiter au maximum.
C'est l'heure de Bohémien Rhapsody, les amis?
Génial, ouais!
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo!
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 Galileo Figaro!
Magnifico!
Voilà, c'était une surprise.
C'est sûrement mieux que le film.
Et ça dénonce. Pour comprendre de quoi il parle, veuillez écouter notre émission Critique-moi si tu peux 2. C'était l'instant pub.
C'était l'instant pub. Alors Antoine, je te laisse commencer.
Alors dans une de ses premières chroniques, Mika, notre oreille d'or rien qu'à nous, tenait ses propos.
Donc il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone dirige ses acteurs à travers la musique. Morricone écrit la musique avant le tournage et Sergio Leone fait écouter la musique aux acteurs pour les faire entrer dans le personnage, chose qui reste unique dans l'univers du cinéma.
C'est un très, 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 très mauvais...
Non, j'ai récupéré ça, des bandes sonores. Je vous invite à écouter l'émission où il en parle. C'est exactement lui.
C'est une très mauvaise imitation.
Alors là, monsieur le spécialiste, je dis faux et archi faux. Il y a un genre de film où la musique existe avant même qu'un seul mot ne soit posé sur le papier. Il s'agit du Biographical Motion Pictures, plus communément appelé chez nous biopic. Oui, bah, vous me passerez l'accent anglais. Hein.
Bah, on te le passe, mais tu nous le rends pas. Et puis, t'en fais n'importe quoi, surtout.
Alors, je m'y connais en... Alors, monsieur, je m'y connais en do bémol. On a quelque chose à rajouter?
Oh, c'est d'état.
Je ne crois pas. Dans la liste des choses que j'aime le moins faire, il y a en un mourir et en deux regarder des biopics, encore plus lorsque ceux-ci sont musicaux.
Il n'y a pas aussi le dentiste que t'aimes pas?
Non, ça va, ça, c'est tranquille. Mais pour être honnête, tous ne sont pas mauvais. Il y en a même de très bons. Par exemple, Amadeus de Milos Forman. Alors oui, ça fait un peu vieux compte si t'as un film de 1974, mais ce film, encore aujourd'hui, est très bon. Et pour tout cinéphile qui se respecte, il se doit d'être vu.
Bah, tu vas pas nous faire une Mozart, là?
La salle de cinéma est le seul endroit où j'accepte que l'on me raconte des sornettes. Et accessoirement aussi où j'aime être enfermé dans le noir avec des gens que je ne connais même pas. Pour moi, le cinéma, tout comme le théâtre, est avant tout un art du mensonge. Dans un film, par principe, tout est faux. Commençons par les acteurs, qui se font passer pour des personnages qui ne sont pas. C'est l'essence même de leur métier. Le temps aussi est modifié. Afin d'aider à la narration ou à la tension, il peut être contracté ou étiré à loisir. Le lieu où est censé se dérouler l'action est bien souvent bidon. Le film est rarement tourné là où il est censé se situer. Donc, lorsque le média passé maître dans l'art du mensonge tente de nous raconter une histoire vraie, généralement je couine. En tout cas, après le succès de Bohemian Rhapsody, l'extinction du biopic musical n'est pas prête d'arriver. Au final, on peut dire que le cinéma est un peu le plus grand pourvoyeur de fake news au monde.
Mais Antoine, il ne tient qu'à toi de te renseigner afin de séparer le bon grain de l'ivraie.
C'est une mauvaise imitation de moi qui t'imite. Hein.
Bah écoute, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul mauvais imitateur dans cette...
Tu as raison. Mais par manque de temps, mais aussi par absence de curiosité, il est vrai que je ne le fais pas. Et honnêtement, je ne pense pas être le seul. Depuis Amadeus, beaucoup de gens pensent que Salieri a aidé Mozart à composer sa messe funèbre. J'en veux pour preuve mon entourage. Une fois de plus, il me faut être honnête, cette scène est très belle et sert très bien l'intention dramatique du film. Il m'est difficile de lui en vouloir. Je ne pourrais pas en dire autant pour le problématique Bohemian Rhapsody, qui invente moult scènes n'amenant rien au film et dont leur seul but est d'asseoir un peu plus la légende du groupe.
Instant pub 2. Ouais. Allez écouter notre très bonne émission Critique-moi si tu peux 2, diffusée le dimanche à 13h.
J'espère que je serai payé à la fin de cette chronique.
Bah comme nous, à peu près au même salaire que nous. En plus de la variété des faits qui ne sont pas toujours exacts, il y a un autre problème qui m'ennuie encore plus dans ce genre de film, la forme. Bien trop souvent, ils sont tous réalisés dans le même moule. La première scène se doit d'être une des scènes finales du film. On se rend compte ainsi du chemin que va parcourir notre protagoniste. Le biopic est trop souvent une ellipse temporelle. Bohemian Rhapsody, Rocketman, Walk the Line ou encore La Vie en Rose, la liste est longue de ces films, des films utilisant ce procédé narratif. Ensuite, par une transition plus ou moins habile, on bascule dans le monde de l'enfance du personnage. Inutile de préciser que l'enfance doit être malheureuse, le cliché d'artiste maudit a encore de beaux jours devant lui. Enfin arrive le succès, et avec lui la méga tournée qui va nous faire voyager, en bus de préférence. Afin de montrer l'effervescence de cette nouvelle vie, le montage du film adopte un rythme beaucoup plus soutenu, tout va beaucoup plus vite. En plus des plans sur le bus en mouvement, on a aussi droit à des scènes de concert, filmées bien souvent sans grande motivation, où l'on voit notre personnage gesticuler sur scène, avec un mouvement de caméra allant de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. Et, pour les réalisateurs les plus ambitieux, le mouvement vertical dans un sens comme dans l'autre. Et, n'oublions pas, en surimpression, le nom de la ville dans laquelle se produit l'artiste. Alors, une fois de plus, un film se démarque, notre papy Amadeus. Pas par volonté de faire différent, mais à l'époque de Mozart, à cause de l'état déplorable des routes, les tournées en bus n'étaient pas encore monnaie courante. Ensuite arrive la chute. Car malgré tout ce succès, il ne faudrait pas oublier que les failles ouvertes par une enfance malheureuse ne se sont toujours pas cicatrisées. Et le succès a même eu tendance à les réouvrir. Mais grâce à des faveurs, grâce à des valeurs fondamentales telles que l'amour et la famille, notre héros va remonter la pente et regagner le cœur de ses fans.
Avec un peu de drogue.
Voilà. Blablabla, blablabla, voilà. Bon. Recène finale du début, mais cette fois-ci à la fin. Clap de fin. Les lumières dans la salle se rallument sur des yeux humides car c'était tellement beau et il mérite tellement l'Oscar que la personne n'ayant jamais vécu ça me jette son ticket de cinéma.
Merde, ils sont où ?
Enfin, pour terminer avec ce genre de film, l'inspiration venant à l'artiste lors de la création de son œuvre est bien souvent mise de côté. Revenons à notre papy. Si je vous ai déjà parlé de la scène finale d'Amadeus, il en existe une autre qui nous montre comment Mozart a eu l'idée de la création de son opéra. Bon, inutile de dire qu'au niveau de la véracité des faits, on est proche du zéro absolu. Mozart est chez sa logeuse, excusez-moi, qui est filmée en contre-plongée et qui le dispute pour je ne sais plus quelle raison. Gros plan sur Mozart qui, au lieu de faire profil bas, sourit en étant fier de lui. Retour sur la logeuse qui continue à l'enguirlander. Fondu enchaîné axé sur la logeuse qui laisse sa place à une cantatrice poussant le chant sur scène. C'est beau. Pour conclure, même si beaucoup de films sont construits sur le même modèle, ça ne les empêche pas d'être bons. Si vous n'avez jamais eu Walk the Line ou NWA, alors attention à l'anglais, Straight Outta Compton, ou alors une fois de plus Rocketman, regardez-les car ils sont vraiment bons. Et bon, je dois quand même faire un petit mea culpa, je pense qu'au final j'aime quand même bien les biopics musicaux.
Ah, ça va faire plaisir à Mika, ça.
Oui. Amadeus, biopic musical, pardon.
Ouais, ça. Oups. Bah, je sais pas, c'est quand même dans le genre. Pour moi, c'est dans le genre. Hein.
Ouais, je sais.
Après, il est différent des autres, donc forcément, il sort du moule.
Bah, il est différent des autres parce qu'il essaye de raconter une histoire qui n'a que peu de points communs avec la réalité, quoi.
Bah, il fait peut-être du cinéma avant de faire.
Ah oui, il fait du cinéma
avant
complètement.
Faire, raconter une histoire, mais.
Voilà, Salieri et Mozart, s'il est utile de préciser, ne se sont quasiment jamais rencontrés. Ils se sont rencontrés une seule fois et c'est tout.
Oui, mais là, bon, après, c'est aussi un autre type de biopic à une autre époque, enfin, une époque différente.
Non, mais je pense que c'est.
Ils sont assez peu faits aussi.
C'est l'un des rares qui sort des sentiers battus. Fin...
Oui, mais les autres, ils sont dans une époque moderne, donc c'est un peu plus. C'est un petit peu différent. C'est
on les jugera dans 20 ans.
Ouais, peut-être.
On va s'écouter Bambino avec Jean Dujardin pour SS117, Le Caire, Nid d'espion.
عيني كبكاو قلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم ملك اليوم وليت محلوم راك بين الناس تمشي في شارع هواس وكل ليلة قدام بالحار تستنى حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تنوم ديلولي وليت محبول مزال تفز يا الفعلون حبيت وزوز يا البلبل وفي بالي راك تنوم ديلولي وليت محبول مزال تفز يا الفعلون تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بومبينو موزيك عاشعل نبعتها وحلوه كيما ريحة النيل بصوت حنين يا ولدي بومبينو ثاني واش راك تتمنى لا
تسمعوا يا اليوم تنسيقا حبيت ويز ويز البلبل قوم في بالي راك تنوم ديلولي وليت محبول مزدت بز البعلون حبيت ويز ويز البلبل
avec le film Les Éblouis. Antoine, tu peux nous en parler un petit peu avant ?
Alors Les Éblouis, c'est un film réalisé par... Donc c'est un premier film, donc réalisé par Sarah Succo. Jeune trentenaire, je crois.
Elle a 39 ans, si j'ai
compris. Jeune quarantenaire. Donc c'est un film inspiré de sa vie réelle. C'est un film qui va nous faire suivre donc de l'entrée jusqu'à la, on va dire la sortie d'une famille dans une communauté religieuse qui s'apparente de plus en plus à une secte. Donc c'est au final une secte. Hein. Et donc nous suivons Camille, donc qui est l'aînée des enfants et qui est donc le personnage dont s'est inspiré, enfin qui est la réalisatrice en fait enfant. Et on va voir comment, bah, au fur et à mesure où les parents perdre pied par rapport, on va dire, à la réalité, elle va essayer de protéger ses frères, et comment, bah, elle va essayer de sortir, une fois qu'elle comprend qu'elle est dans une espèce de cercle infernal, comment elle va essayer de sortir de la secte, en fait, et voilà. Donc c'est un film qui, en acteur, on a donc Camille Cotin, qui est plus connue pour 10%, ou je crois, si elle avait fait quoi aussi, elle avait fait...
Pour
10%, voilà. Le père, alors moi je le connaissais pas, c'est Eric Caracava. Je sais pas.
Son nom ne
dit rien. Ouais, me dit rien du tout. Alors le gourou de la secte, c'est Jean-Pierre Darroussin.
Oui, déjà nettement plus connu.
Alors ce qui est assez rigolo, c'est que en tout cas, donc pour Camille Cotin, Jean-Pierre Darroussin, je trouve que là le casting est bien réussi parce qu'ils ont réussi à prendre Jean-Pierre Darroussin, qui est quand même connu pour être quelqu'un de bienveillant dans ce film, mais plutôt méchant, et Camille Cotin, qui était connu un peu pour jouer une connasse, mais c'est ça, connasse, le film dont je cherchais, qui là joue un mère de famille, donc plutôt un contre-emploi, les acteurs. Alors moi le père, je sais pas, je le connaissais pas, mais la révélation du film, c'est quand même la fille qui joue Camille, Céleste Brunkel. Et impressionnant. Enfin, honnêtement, moi, le film m'a pas plu.
D'accord.
Parce que voilà, j'ai pas eu l'impression de voir un film de cinéma, donc ça me gêne un peu. On peut dissocier la forme du fond. Mais alors, par contre, elle crève l'écran, cette gamine. Enfin, c'est impressionnant.
Et on y reviendra la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Ouais. Il sera dans l'extrait la semaine prochaine, où tu lui poses la question et il répond à ce sujet.
Ouais.
On va lancer l'extrait et puis on en reparle rapidement après.
Donc encore une fois, on peut excuser Sarah de ne pas être parmi nous ce soir, mais ouais. peut-être que tu pourras peut-être un peu, je l'ai un peu expliqué avant la séance, mais le contexte de sa
ouais,
présence ce soir.
Tout à fait. Oui, elle s'excuse vraiment. Alors elle a fait une promotion énorme sur son, c'est son premier film, donc elle a fait une grosse promotion. Elle était vraiment impliquée et voilà, et elle aurait adoré. Elle avait plusieurs dates calées ces prochains jours et bon, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est un film qui est donc très très personnel. C'est vraiment, ça raconte vraiment toute son enfance, quoi. Quand elle avait 8 ans, elle est rentrée donc dans une communauté charismatique et elle y est restée jusqu'à ses 18 ans, où elle s'est donc voilà, elle s'est enfuie à 18 ans.
Et donc tu as fait quelques débats avec elle en l'accompagnant. Donc Sarah Succo, si vous la remettez pas, notamment on l'a vu récemment dans Les Invisibles, où elle faisait l'un des rôles des jeunes femmes qui mettaient en place, ouais. Enfin, qui étaient en toi accueillies par la communauté. Et du coup, dans les débats que tu as pu faire avec Sarah, quelle est sur la raison de faire ce film, en tout cas, parce que d'avoir une histoire personnelle difficile, c'est un fait, mais de là à en faire un premier film, qu'est-ce qui a motivé chez elle ce choix-là?
Je pense que c'était vraiment une volonté de... D'en découdre avec le passé, en fait, d'exorciser vraiment quelque chose qui a été une énorme partie de sa vie et de celle de ses frères et sœurs, à qui donc elle dédie son film. Et il y avait vraiment une volonté de... pas de se raconter, parce que c'est une fiction. Hein, elle ne voulait pas faire un documentaire, ça l'intéressait pas. Elle voulait vraiment faire une fiction, raconter une histoire qui n'était pas très pour très la sienne, mais où en tout cas, voilà, elle reflétait ça et elle partageait ce passé-là avec les spectateurs, donc parce que c'est quelque chose qui est assez pas méconnu. Bon, on sait tous que les sectes, il y en a, mais c'est quelque chose de beaucoup plus courant qu'on ne le pense. C'est des choses qui existent un petit peu de partout. Alors après, sous différentes formes, hein, il y a des formes un peu plus... Voilà, toute communauté n'est pas forcément déviante. Mais voilà, il y avait... En tout cas, c'est un sujet qui a été très, très peu abordé au cinéma. Il n'y a pas eu... en tout cas à ma connaissance, de fiction qui avait été faite vraiment sur ce sujet-là. On a plus l'habitude de voir des films sur la radicalisation dans l'islam notamment, où voilà, ces derniers mois on en a vu quelques-uns, mais c'est vrai que du côté de la religion catholique c'est beaucoup plus rare, et c'est quelque chose qui existe, et il y avait une vraie volonté de voilà, il y a 6 ans, voilà, il y avait une volonté de dire bah j'y vais, quoi. Il faut que ça sorte, il faut que ça nous aidera, en fait. Après, vraiment, on pourra, mes frères et sœurs, continuer à vivre et voilà.
Pyramide a suivi le projet assez tôt dans sa construction. Au niveau du casting, de choisir par exemple Camille Cotin, qu'on n'a pas l'habitude en tout cas de voir, on la voit plutôt dans des rôles, si ce n'est comique, des rôles un peu rentre-dedans, comme par exemple dans 10%, ou même ouais. dans Le Mystère Henri Pic, où c'est peut-être pas un rôle comique, mais en tout cas un rôle de complicité. Et là, c'est vraiment un rôle où on voit un personnage, en tout cas, de mon point de vue, un peu dépérir et devenir totalement...
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, Pyramide, comme sur la grande majorité des films français, en fait, le distributeur s'engage sur lecture de scénario, donc le film n'est pas encore fait, mais c'est à ce moment-là que la décision de suivre un projet... se fait, et ensuite le tournage se passe, et enfin, il y a le casting, le tournage, etc., et puis la sortie. Et donc c'était vraiment au tout début du processus, quoi. Sarah avait donc rédigé son scénario donc à 4 mains, puisqu'elle l'a rédigé avec Nicolas Silol, je pourrais en parler aussi. Et les acteurs... Le premier qui a été évident pour elle, c'était le personnage du gourou, c'était Jean-Pierre Darroussin, auquel elle a pensé tout de suite, parce que Darroussin, il a quelque chose d'extrêmement bienveillant. Ça fait des années qu'il fait des films, et il a toujours ce côté... pour elle, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle en dit, c'est qu'il a un côté vraiment rassurant. Quand Jean-Pierre Darroussin est dans un film, c'est toujours un personnage qui est profondément bon. Enfin, en tout cas, Darroussin qui joue quelqu'un de méchant, c'est pas une évidence du tout.
Il la met pas à l'envers, Darousson, dans ses rôles, quoi. C'est toujours quelqu'un, soit il sait prendre pour quelqu'un de, pour un con, soit
voilà.
Voilà. Il est jamais méchant.
Et là, pour ce rôle-là, en tout cas, bon, il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment le gourou de la secte, donc c'est la grande figure charismatique qui va influencer et qui va ensuite enfermer, véritablement. Et ce qui était justement intéressant avec cet acteur-là, c'est justement que la figure charismatique, elle a de l'influence parce que, a priori, elle est sympathique, elle est aimable, elle est rassurante. Et donc, finalement, on retrouve un peu ce côté de Darousson qui, lui-même, quand il a dit oui dès la première version du scénario, donc au tout début, vraiment, quand Sarah l'a abordé, il a dit ouais, « je trouve que voilà, ton film, il y a un sujet très fort et il y a une histoire dans le sujet, l'histoire donc, vue à travers les yeux du personnage principal. » Et il a dit oui tout de suite. Et il a aussi dit oui parce que, justement, quand elle lui a exposé son point de vue sur pourquoi ça devrait être lui, etc., il ne pouvait pas le démentir, quoi. C'était... Je pense que sa performance est plutôt séduisante. Et pour le reste, alors Camille Cotin, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de l'avoir dans des comédies. En tout cas, je pense que c'est vraiment son premier grand rôle dramatique, vraiment. Et elles se connaissaient de longue date puisqu'elles ont fait ensemble, donc Sarah Succo, elle vient du théâtre à la base, elle a commencé le théâtre quand elle avait 7 ans et puis à 8 ans, ses parents l'ont forcée à arrêter, elle a donc dit oui, mais évidemment pendant 10 ans elle a toujours continué de faire du théâtre en cachette, et en fait quand elle est sortie de la secte quelques années plus tard, elle était dans les ateliers de Pierre Palmade. Et donc, il y avait Camille Cotin aussi qui faisait partie de ces ateliers-là. Et donc, elle se connaissait de cette époque-là déjà. Et en fait, c'était un choix qui était aussi assez facile, non pas parce qu'elle se connaissait, mais parce qu'il fallait, pour incarner le rôle de la mère, une femme qui ait quelque chose d'assez doux, en fait, et qui n'ait pas une certaine dureté, parce que les personnages des parents sont quand même des personnages très très ambigus dans le film, très ambivalents. Et elle ne voulait pas qu'on se pose en tant que spectateur en opposition aux parents. En se disant, bon, les grands méchants, c'est... Alors bien sûr, ils ont leur part de responsabilité dans l'histoire, je ne dis pas le contraire. Mais il ne fallait pas qu'on soit contre les parents non plus, quoi. Il y avait vraiment... Et Eric Caravaca, c'était un peu le même questionnement. Elle l'a rencontré à l'époque où il faisait la promotion de son propre film, Carré 35. Et en fait, elle a senti l'humain. Enfin, Eric Caravaca, c'est aussi humainement une personne qui est très, très douce, très charmante, hyper... Enfin, quelque part, qui ressemble beaucoup... C'est bizarre de dire ça, c'est pas très... Mais qui est quelqu'un de très attentionné, de chaleureux, et dans le film, c'est un personnage chaleureux, le personnage du père, avec toutes ses... Pareil, sa part d'ambivalence, quoi.
Nous revoilà, c'était... comment il s'appelle? Guillaume...
Canet?
Non.
Tel? Musso?
Guillaume Perret?
Non.
Guillaume Perret pour Pyramide Distribution. Et puis qui parlait justement des films Les Éblouis de Camille Cotin, c'est ça?
Non, de Sarah
Succo. Pardon, je suis un peu à l'ouest. Faut que je fasse ma sieste d'après-midi là. On va enchaîner avec une petite musique et puis on se retrouvera après avec une critique de film. On va s'écouter Chic Habit de April March, qui est dans le film comment, le boulevard des le film de Tarantino,
boulevard de la mort.
Boulevard de la mort, voilà, exactement. On s'écoute ça tout de suite.
You're gonna see the
c'est pas un film qui m'a aveuglé.
Michael, tu voulais nous parler d'un film.
Oui. Alors, je vais quand même faire l'avertissement nécessaire que si vous êtes fan.
Ah, la Reine des Neiges.
Non. Vous êtes fan vraiment de Disney et de tout ce qu'ils font,
bah déjà,
fuyez pauvre fou, parce que ça va saigner.
Pourquoi alors, Disney font des choses pas bien?
Oui.
Ça arrive.
Alors, je vais parler de du film qui jusqu'à récemment était en tête en matière d'entrée en France. J'ai nommé Le Roi Lion version avec des guillemets live action.
Il n'y a pas tellement de live action,
mais c'est la version live action. Alors c'est pour ça que j'emploie des guillemets.
C'est certainement le film d'animation le plus difficile à faire en live action. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait.
voilà, c'est du CGI à fond. Bref, de John Favreau, le Yes Man préféré de Disney,
Les Iron Man.
Les
deux premiers Iron Man déjà.
Voilà, les deux premiers Iron Man et qui s'occupe actuellement de la série Mandalorian, qui a servi de façade à la sortie de.
Mandalorian, c'est quoi?
Ouais, c'est la série Star Wars qui sert de façade à.
Moi j'avais compris Mandalorian.
À la sortie de.
Du Maghreb, tu sais. Non. Ou...
à la sortie de Disney Plus aux États-Unis.
Bon, il a fait des bons films, mais ils sont plus confidentiels.
Ouais.
Bah, il en a fait. Mais
oh, mais je n'en doute pas. Mais en attendant, le Roi Lion version 2019 n'en fait pas partie.
Non, je confirme. Pour l'avoir vu, c'est pas terrible.
Alors, si tu l'as vu, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que il y a entre 20 et 30 minutes de plus par rapport au film original.
Peut-être. En tout cas, il y a des répliques qu'ils ont retirées pour en mettre, disant vous la connaissez déjà.
Non, mais ça, à la limite, ça peut être marrant. Ils ont essayé de rajouter des scènes qui n'apportent vraiment strictement rien, qui sont en plus extrêmement longues. Alors après, oui, c'est très beau, c'est tout ce que tu veux, tout ça.
Moi je trouve que le film d'animation au départ était aussi
très beau. Le film d'animation est très beau, mais pour reconnaître quand même que ça claque. Voilà, c'est pas du... Bon après, faut être public, mais je pense que... Tous ceux qui ont vu le film, enfin la grande majorité de ceux qui ont vu le film diront que oui, effectivement, il est très beau. Mais en dehors de ça, c'est une jolie coquille vide, quoi. Il n'apporte rien par rapport au film original. Et en plus, par ses rajouts, je trouve que dans un certain moment, il casse le rythme qu'avait le film original dans sa narration, dans le rythme de l'histoire originale, quoi. Donc, franchement, si j'ai qu'un conseil à donner pour Le Roi Lion, le live action, entre guillemets, c'est regarder la scène du début, qui est franchement bluffante. Puis voilà, après t'as compris, vous savez le faire, maintenant c'est bon, on a compris, c'est très fort, c'est très bien. Et puis après vous retournez sur le film de 94 qui est très 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 bien aussi.
Même moi je conseille d'aller directement au film de 94. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'y aller. Si vous l'avez vu, vous pouvez le revoir, ça fera toujours plaisir, plutôt que de voir ce nouveau Roi Lion qui est sans intérêt.
Mis à part pour montrer que Disney sait faire des beaux CGI.
Il sait le faire avec Marvel, alors on reste avec Marvel et puis...
Mais là on est sur un autre niveau, parce que là il n'y a vraiment aucune prise réelle. Hein.
Si, peut-être le décor et encore, c'est même pas sûr.
Je sais pas, je suis pas sûr du, tout.
J'avais entendu parler que c'était le fond où c'était de la prise
réelle. Après ils s'en sont servis peut-être pour modéliser en CGI, mais...
Et à quand la version dessin animé de la version live action.
Dans 20 ans, peut-être, 20-30 ans.
Ouais, peut-être.
Quand ils auront fini de faire les live
action. Parce que le rajeunissement de De Niro dans The Irishman ne donne pas le De Niro qu'on connaît dans Taxi Driver, donne un autre De Niro. Donc ça se trouve, L'adaptation en dessin animé de l'action live du Roi Lion ne donnera pas du tout le Roi Lion, mais donnera autre chose.
C'est un monde parallèle.
C'est un monde parallèle. On va s'arrêter là et on fera d'autres critiques la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, 14h, comme d'habitude. Et puis, on va se dire au revoir. Et on se retrouve bientôt.
À bientôt. Bon après-midi à l'écoute de Studio Zef.